Bonjour tout le monde. Moi pas tout seul, hein? Bon Dieu, puis moi. Alléluia. L'Emmanuel est là. Alléluia. Je vous salue tous dans le beau nom de Jésus et je suis content d'être parmi vous en ce matin et de voir vraiment la joie, la paix du Seigneur rayonner sur chacune de vos vies. Alors maintenant, c'est est-ce qu'on accepte ces rayons, est-ce qu'on laisse ces rayons nous remplir pour affronter toutes les réalités de la vie. Mais je sais qu'ils rayonnent sur vous. Et je prie que ces rayons puissent vraiment non seulement réchauffer nos cœurs, mais donner une orientation et une direction à nos vies. Amen. Donc je veux vraiment remercier le président de culte, Emmanuel, et ainsi que Daniel, les chantres et les musiciens pour ce temps de louange et d'adoration ce matin. Nous avons terminé une belle épopée, un beau parcours avec le livre d'Exode, n'est-ce pas, pendant tout le mois de septembre. Je ne vais pas vous demander qui a pu tout lire, qui a lu la moitié, qui a lu un peu, qui a lu... Enfin, je sais que chacun a fait ce qu'il pouvait, n'est-ce pas? Amen. Mais je ne peux que vous encourager à lire la parole de Dieu et à vous saisir de cette parole. Amen. Nous avons vu ensemble comment Dieu libère. Et quand il libère, comment il libère pour avancer, pour sortir de l'esclavage, pour apprendre à découvrir Dieu. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël, pour apprendre à le découvrir, pour apprendre à découvrir son amour parce qu'il est le Dieu qui pourvoit et pour apprendre à découvrir sa justice parce qu'il est le Dieu qui ne tolère pas le péché aussi. Et je bénis Dieu, nous avons pu le découvrir à travers les méditations de la parole de Dieu, à travers les temps de prière et aussi à travers les temps d'études bibliques qui ont été bien suivis. Hein? Alléluia! Et bien participatives. Et je bénis Dieu pour cela. D'ailleurs, nous avons lancé un sondage, donc n'hésitez pas à y répondre en ligne ou encore auprès de Jessica qui est là, elle peut lever la main. Elle vous le remettra pour savoir comment vous avez vécu, que vous avez fait les méditations ou pas. Nous avons besoin de savoir comment vous avez vécu ce mois de septembre afin que nous puissions nous améliorer pour exceller pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons vu donc comment Dieu libère pour sortir de l'esclavage. Mais quand Dieu libère, il ne libère pas simplement du péché. Il nous libère aussi pour un but. Pour un objectif, parce que Dieu a ses projets. Et au mois d'octobre, nous allons passer de l'Ancien au Nouveau Testament et nous allons lire l'Épître aux Galates, comprenez par là la lettre aux Galates. Et dans ce livre, Paul nous rappelle ce qu'est la liberté, c'est vrai, mais il nous dit tout simplement que la liberté nous permet d'aller plus loin. Et le thème de ce mois-ci, c'est libre pour vivre pleinement. Libre pour vivre pleinement. Non sous la loi, non sous la peur, non sous la culpabilité, mais par la grâce pour exprimer pleinement la vie de l'Esprit. Alléluia. Et c'est exactement ce que le livre de Galates nous permet de développer. Alors, pour ceux qui ont dit « Ouais, 40 chapitres, c'était chaud, hein ?» Dans Galates, il y a moins de chapitres. Et on va quand même prendre tout le mois pour cela. Donc, on n'aura pas de méditations. Je ne vais pas vous envoyer, en tout cas pour tous ceux qui s'y inscrivent, des méditations quotidiennes, mais peut-être deux ou trois méditations. Vous pourrez vous inscrire, soit effectivement auprès de Jessica ou sur WhatsApp, et vous allez recevoir ces méditations deux ou trois. Mais cette fois-ci, vous allez les faire. Alléluia! Amen, gloire à Dieu. Mais je tiens quand même à encourager tous ceux qui ont fait toutes les méditations. Nous allons donc étudier, méditer sur le livre de Galates. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez Luther, Martin Luther? Ça vous dit quelque chose? Vous avez la ria? Hein? Non, c'est sûr, ça fait déjà 500 ans. Mais Martin Luther a été celui qui a initié la réforme protestante donc au XVIe siècle, il y a près de 500 ans. Et savez-vous comment il a appelé la lettre de Galates? Ça vous dit quelque chose? Non, je ne pense pas. Martin Luther appelle la lettre de Galates sa chère épouse. Ou encore, il a dit son épître à lui. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Il l'a même appelé ma Catherine de Bora. C'est comme ça que s'appelait son épouse, qui, soi-disant passant, était une ancienne nonne. Qui était Martin Luther, si ce n'est un prêtre? Si ce n'est un prêtre qui était sous le poids de la culpabilité à cause de son péché et il essayait de faire tout ce que la religion disait pour pouvoir essayer de soulager son cœur par rapport au poids du péché. Il avait une notion du péché très aiguë, mais ça lui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et tout ça pesait sur son cœur. Et il a lu l'épître aux Romains, et il a lu l'épître à Galates, et il a lu, et Dieu lui a donné une véritable délivrance. Et quand il dit que, parce qu'il s'est marié entre-temps, c'était un prêtre catholique, hein, mais il s'est marié entre-temps, vous avez compris, avec Catherine de Bora, et il a lu cet épître de Galates, et pour lui, c'est le cœur de l'Évangile. Et cet épître parle de la liberté chrétienne. Et cet épître parle de la justification par la foi seule. Galates, libre pour vivre pleinement. Alors j'aimerais vous raconter l'histoire aussi d'un homme qui cherchait en pleine nuit ses clés. Et il les cherchait sous un lampadaire de rue. Réverbère, on disait ça à l'époque, n'est-ce pas? Et son ami, qui le voit, s'arrête et il lui dit, mais est-ce que je peux t'aider? Il dit, pas de souci. Et il cherche, et puis il dit, mais dis-moi exactement où est-ce que tu as perdu tes clés? Et l'homme lui dit, mais dans ma maison. Alors, il dit, dans ta maison? Et pourquoi tu cherches tes clés ici, à l'extérieur? Ben, parce que ici, la lumière est plus forte. J'aimerais te dire que tu ne trouveras jamais ce que tu cherches si tu ne cherches pas au bon endroit. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à avoir une vie spirituelle. Beaucoup de personnes cherchent peut-être, sans le savoir, le salut, comme cet homme. Mais ils la cherchent au mauvais endroit. Et j'aimerais te dire que les chrétiens de Galates, eux, ils savaient où trouver le salut. Ils avaient même la clé du salut. Parce qu'ils avaient entendu l'apôtre Paul prêcher ce salut avec clarté. Parce que depuis la conversion de l'apôtre Paul près de Damas, sur le chemin de Damas, acte chapitre 9, l'apôtre a largement répandu l'évangile en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Et lors de son premier voyage, Paul a prêché l'évangile et il a implanté des églises, notamment dans la région de la Galatie du Sud, qui représente en réalité non pas une ville, mais une région. Et dans cette région, il y avait Antioche de Pisidie, il y avait Lystre, il y avait Derbé, ce qui correspond à la Turquie actuelle. Vous allez regarder sur Internet où est la Turquie, et même vous pouvez taper Antioche de Pisidie, Lystre et Derbé pour voir où se situaient ces villes. Donc, les Galates ont été invités par Paul à placer leur foi en Jésus-Christ. Mais ils ont été troublés. Moun vini troubler l'esprit. Après le départ de Paul, ils ont commencé à écouter des légalistes qui disaient, oui, tu as le salut, d'accord, mais il faut aussi, à côté de cela, mettre les bonnes œuvres pour être sauvé. En gros, on peut le comprendre comme ça, l'évangile plus quelque chose d'autre. L'évangile plus le sabbat obligatoire. L'évangile plus la circoncision, couper le prépuce des hommes. L'évangile plus ne pas manger de porc, ne pas manger de crevettes. Ça embêterait certains ici, hein? L'évangile plus se purifier avec les ablutions avant de prier. L'évangile plus donner la dîme pour être accepté par Dieu. Bon, bref, l'évangile plus quelque chose. Et Paul va écrire aux chrétiens de Galates, et si vous lisez bien l'épître aux Galates, vous verrez qu'il n'est pas très content. Paul va leur écrire parce qu'il est bouleversé, il est en colère parce qu'ils sont en train de s'éloigner du message de Jésus. Et dans cette lettre, Paul ne fait aucun éloge. Comme dans les autres lettres, vous savez, il y a des lettres où il va dire, il va s'appuyer sur quelques personnes ou sur un groupe, je reconnais votre foi et tout ça. Mais ici, Paul va droit au but. Il est choqué et peiné de voir les Galates abandonner si vite la grâce de Jésus pour un faux évangile. Pour un faux évangile. Et il leur écrit pour leur dire clairement, ce n'est pas la loi qui sauve. Vous savez, le vrai évangile, on va dire, je vous donne trois vérités simples pour ce vrai évangile. Trois vérités simples. Trois vérités que j'extrais tout simplement des cinq solas de la réforme protestante. La première, c'est la grâce seule, sola gratia. Le salut est entièrement un don de la grâce de Dieu. Il ne dépend pas de nos mérites, de nos œuvres, de notre volonté. Dieu agit seul du début jusqu'à la fin pour notre salut. Alléluia! La grâce seule, est-ce que vous le retenez? La foi seule, sola fide. Sola fide, le croyant est justifié devant Dieu, non par ses œuvres, mais par la foi seule. Parce que la foi, c'est le canal par lequel, tout simplement, nous recevons le salut de Christ. Nous choisissons de croire et Dieu choisit de nous donner le salut. Alléluia. Et puis, le dernier que je vous donne, Christ seul, solus Christus. Le salut vient uniquement par le Christ. Personne d'autre, pas ni d'autre intermédiaire qui Jésus, celle qui nous salua. Ce ne sont pas nos œuvres et il n'y a personne d'autre. Nous avons à être en contact avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus seul a accompli l'œuvre du salut. Donc, et puis, on pourrait rajouter dans ce, dans ces sola, l'écriture seule, sola scriptura, et à Dieu seul soit la gloire. Alors, est-ce que tu peux répéter avec moi la grâce seule, la foi seule et Christ seul? Et ici, les Galates sont désorientés parce qu'ils cherchaient la clé du salut et la clé pour pouvoir grandir spirituellement au mauvais endroit. Et j'aimerais te dire, l'évangile plus quelque chose, ce n'est plus l'évangile. L'évangile plus quelque chose, ce n'est plus l'évangile. Et c'est pour ça que Paul va leur écrire, tout simplement, et sachez que c'est la première lettre de Paul, l'épître aux Galates. Alors malheureusement, aujourd'hui, encore beaucoup de gens cherchent au mauvais endroit la clé qui ouvre une relation avec Dieu. Et j'ai observé que même des habitués de l'Église n'appliquent pas la clé de la grâce. Je répète, même les habitués de l'Église ne pratiquent pas, ne n'appliquent pas la clé de la grâce pour ouvrir le salut et pour pouvoir avoir une vraie communion intime avec Dieu. D'ailleurs, bien des fois, des personnes viennent à l'Église et ne connaissent pas Dieu. J'aimerais juste t'inviter à lire ce que l'apôtre Paul nous dit, qui lui-même croyait connaître Dieu et ne le connaissait pas. Mais il l'a rencontré le ressuscité sur le chemin de Damas. Galates, chapitre 1, versets 1 à 8. On prend que 8 versets. On poursuivra à l'étude biblique jeudi soir. Galates, chapitre 1, versets 1 à 8. C'est bon, vous l'avez? Normalement, vous avez déjà ouvert vos Bibles depuis le début. Dès que vous arrivez ici, vous ouvrez Galates pendant tout le mois d'octobre. OK? Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Fallait bien qu'ils disent quelques mots pour les encourager, mais en même temps pour les éclairer. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et conseillez pas bien comprendre. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce n'est pas que le disque est rayé. Hein? Il qu'a viré répété. Seigneur, accorde-nous ta grâce de comprendre ta parole ce matin et de nous laisser toucher par elle, qu'elle illumine les yeux de nos cœurs et que nous puissions sortir ici différemment de la manière dont nous sommes entrés. Par ta seule grâce et par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Donc Paul écrit ici aux Galates, et je répète le verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si souvent de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et je crois que cette expression a une force exceptionnelle, n'est-ce pas ? Paul répète deux fois, je viens de le dire, que celui qui prêche un autre évangile soit maudit, soit anathème. Dans le grec classique, anathème, ça désigne quelque chose qui est mis à part pour Dieu, qui est offert, qui est consacré. Mais il se trouve que dans le Nouveau Testament, le mot prend un sens inverse. Il signifie maudit, voué à la destruction, rejeté de Dieu. C'est donc quelque chose ou quelqu'un séparé de Dieu, non pour la bénédiction, mais pour le jugement de Dieu. Donc être anathème, ça veut dire tout simplement être sous la malédiction de Dieu, être exclu de la faveur de Dieu, parce que tout simplement, ces personnes-là étaient en train de déformer l'évangile. Et Paul ne laisse aucune ambiguïté, aucune place à l'ambiguïté. Il n'y a qu'un seul évangile, la grâce seule, la foi seule et Christ seul. Amen. Et toute tentative de dénaturer, même avec des apparences spirituelles, j'aimerais te le dire, est un danger mortel pour la foi. Et c'est pourquoi Paul est aussi dur. Et l'évangile, je vais te dire, est une bonne nouvelle qui est pure et qui ne supporte aucun mélange. Si tu as un verre d'eau fraîche, c'est désaltérant, n'est-ce pas ? Mais si on y verse juste une seule petite goutte de poison, personne ne va oser la boire. Et c'est l'image ici de Galates chapitre 1. Dès qu'on mélange l'évangile à autre chose, même une plus petite dose, je vais te dire que ça ne sauve plus, ce n'est plus opérant, ça détruit. Philippe Yancey, qui est un auteur très connu, qui a écrit « Touché par la grâce », je ne sais pas si tu connais ce livre, mais je peux te le conseiller, « Touché par la grâce », ça a de quoi décoiffer, ça décrit tout simplement l'évangile de grâce. Et il dit « La grâce, écoutez bien, la grâce ne nous demande rien. Ah. Sinon, de l'attendre avec confiance et de la reconnaître avec gratitude. » Autre chose. La grâce ne dépend pas de ce que nous avons fait pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour nous. Et, dernière citation, tout ce que nous devons faire, c'est crier, on disait à l'époque, au secours. Au secours! Parce que Dieu accueille chez lui quiconque veut de lui. Et c'est d'ailleurs lui qui a déjà fait le premier pas. Finalement, l'évangile pur, l'évangile que Dieu nous a donné, c'est nous appelle tout simplement à crier à Dieu au secours. Aide-moi. Et c'est lorsqu'on a cette position au secours, aide-moi, que Dieu répond à travers Jésus de façon purement gratuite. Est-ce que vous me suivez ? Le vrai évangile, c'est limite chaque jour que tu fais, chaque chose que tu fais au quotidien dans ta vie, à longueur de journée, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, ta grâce sur ma vie. Au premier siècle, il y avait déjà ce problème que nous voyons actuellement, le fait de traficoter l'évangile. Et je le dis comme cela, hein, alors tenez-vous bien, hein, mais évangile plus parler en langue pour montrer que tu es vraiment sauvé. Évangile, se faire baptiser comme qui dirait que c'est le baptême qui sauve. Évangile plus donner la dîme pour être accepté par Dieu. Évangile plus appartenir à telle église ou telle dénomination pour être sûr d'être sauvé. Évangile plus suivre tel prophète ou tel leader spirituel pour être sûr d'être dans la vérité. Évangile plus avoir un certain comportement extérieur, ne pas se maquiller, ne pas porter de bijoux, ou bien voilà, pour être sûr d'être sauvé. Ou évangile plus faire des œuvres pour mériter la grâce. Et je pourrais en donner encore. On ajoute des choses à l'évangile. Et aujourd'hui, il existe plusieurs versions déformées qui déguisent l'évangile avec des slogans qui détournent du vrai message. C'est fou, mais la perversion, écoutez bien, la perversion de la vérité est plus difficile à discerner qu'un mensonge flagrant. Je répète, la perversion de la vérité est plus difficile à discerner qu'un mensonge flagrant. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend semer, comme on dit, sème une offrande pour récolter la bénédiction. Vous avez déjà entendu ça ? Et on appelle cela la loi, et c'est intéressant, la loi de la semence. Comme si c'était automatique. Alors c'est vrai que Jésus dit « Donnez et il vous sera donné ». Mais Jésus n'est pas en train de garantir que nécessairement il y aura un retour matériel automatique à toute offrande. Parce que le but de Jésus, c'est nous encourager à la générosité. Pas nous faire entrer dans une loi. Donc je donne et j'aurai. Et la grâce abondante de Dieu au grand jamais n'est jamais conditionnée par l'attitude de l'homme. C'est Dieu dans sa souveraineté qui choisit de donner sa grâce. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'évangile n'a pas besoin d'ajout. Pas plus, pas moins, pas autre chose, Jésus seul. Amen. D'autres vont te dire, si tu as assez de foi, tu n'auras plus de maladie. Et là, c'est pas qu'il suffit pas simplement de donner, mais il faut avoir obéi pour avoir les bénédictions, pour avoir la santé, pour avoir la prospérité. Mais bien sûr que dans la Bible, l'obéissance biblique est valorisée, mais elle ne garantit pas nécessairement une vie sans difficulté et sans épreuve, chers frères et sœurs. La Bible parle bien des croyants fidèles et qui, souffrent et qui ont connu l'épreuve. Dans toute la Bible, il y en a. Le danger ici, c'est de croire que si je ne suis pas prospère, si je ne suis pas en santé, c'est parce que je n'ai pas suffisamment obéi. Et ça peut poser de grands problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ? D'autres encore diront, Dieu veut que tu sois riche et que tu réussisses. Et ils confondent bénédiction de Dieu avec richesse matérielle. Et ils citent souvent, allez, Deutéronome 28 ou Josué 1:8, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais ces promesses étaient faites au peuple d'Israël dans un contexte précis et pas comme une garantie pour tout croyant. Alors, comprenez-moi bien, Dieu peut bénir matériellement, oui, et il bénit surtout spirituellement. Il donne la paix, il donne la joie, il donne le contentement, tout ce que Galacte est en train de nous dire, n'est-ce pas, dans les fruits de l'esprit. Et Dieu veut le donner en abondance. Le danger ici, c'est de faire du succès une preuve de sainteté. Et d'oublier que Jésus lui-même n'avait pas de maison pour poser sa tête. Il n'avait pas de maison personnelle. Il profitait certainement des maisons des uns et des autres, mais il n'avait pas de maison personnelle. Il n'avait pas d'endroit pour poser sa tête. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui lui a posé des questions. « Ah, tu veux me suivre ? D'accord. » On a vu ce texte-là ensemble. « Tu n'auras pas d'endroit pour poser... » Ah ouais, d'accord. Non, mais ouais, bon, je vais réfléchir. L'évangile n'a pas besoin d'ajout, pas plus, pas moins, pas autre chose, Jésus seul. Certains même vont vendre des huiles bénies. Vous connaissez ça ? Des mouchoirs qui sont oints ou des eaux puissantes. Touchez ça et votre miracle viendra. Ils utilisent le psaume 105, le verset 15, « Ne touchez pas à mes oints. » Mes frères et sœurs, la puissance n'est pas dans un objet, elle est en Christ. L'onction symbolise tout simplement la présence de Dieu et elle ne s'achète pas. Et le danger ici, c'est de transformer la foi en superstition. Bon Dieu, ce n'est pas un magicien. Oh. D'autres vont insister, mais proclame ta victoire, déclare ta bénédiction. Et ils vont citer notamment Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais bien sûr que nos paroles comptent. Mais elle ne crée pas la réalité comme c'est le cas de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que je dis que je suis riche que je vais le devenir. Là, le danger ici, c'est de croire que Dieu obéit à nos mots. Est-ce que vous me suivez? Alors que c'est nous qui devons obéir à sa parole. L'évangile n'a pas besoin d'ajout, pas plus, pas moins, pas autre chose. Jésus seul. Vous voulez que je continue? Certains disent, « Honore ton prophète et tu vas prospérer. » Et ils citent notamment Hébreux chapitre 13, le verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Mais cette parole ne justifie pas la domination ni la manipulation spirituelle qui a cours, n'est-ce pas? Le pasteur ou le prophète n'est pas un maître, mais un serviteur de Dieu, un serviteur parmi les autres. Et le danger ici, c'est de mettre sa foi dans un homme au lieu de la mettre en Jésus. D'autres enfin transfirment, et c'est peut-être le cas de cette société, de nos sociétés, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, post-coloniale. D'autres disent que Dieu va transférer les richesses des nations vers toi. Et il cite Exode chapitre 3, verset 22, pour dire que les enfants de Dieu vont dépouiller les... On l'a vu il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Mais l'évangile n'est pas une revanche économique des descendants d'esclaves sur les descendants de colons. Est-ce que vous êtes qu'à suivre moi? Dieu promet une richesse bien plus grande, c'est la vie éternelle. Alléluia! Le danger ici, c'est de nourrir de la jalousie, sous couvert de spiritualité, de la haine et de la convoitise, sous couvert de foi. Est-ce que vous me suivez? Paul dit clairement, si vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, au verset 9. Donc l'évangile n'est ni argent, n'est ni pouvoir et n'est ni magie. C'est la grâce de Dieu, reçue par la foi seule, en Christ seul, selon l'Écriture seule, pour la gloire de Dieu seul. Et j'aimerais te dire comme cela, s'il fallait faire un peu de mathématiques ce matin. L'évangile plus n'importe quoi, c'est rien. L'évangile plus n'importe quoi, c'est rien. L'évangile plus rien, c'est tout. C'est la liberté, c'est la joie, c'est la vie, c'est l'amour de Dieu déversé. Alléluia. Et la grâce ne promet pas la richesse matérielle, mais une relation vivante avec Dieu qui nous rejoint dans notre faiblesse, dans notre pauvreté, dans notre péché. Jésus descend et il nous rejoint là où nous sommes. Alors la question pour nous, c'est comment rester attaché à l'évangile authentique. Et j'aimerais dire trois choses. Il faut toujours vérifier la source. Comme les journalistes, ils sont censés vérifier leurs sources. Même si des fois, ils traficotent leurs sources, mais ça, c'est autre chose. Bon, mais ils sont censés vérifier la source. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Tout message spirituel doit être mesuré à la lumière de l'évangile tel que Paul l'a annoncé, Jésus-Christ et notre frère Nicolas l'a rappelé, Jésus-Christ mort, ressuscité pour nous, salut gratuit par la foi seule. Et si le message met l'accent, ce que vous entendez, met l'accent sur ce qu'on doit accomplir, sur ce qu'on doit payer, sur ce qu'on doit produire, il y a un problème quelque part. Il faut faire attention. Est-ce que la croix est au centre? Est-ce que la grâce est au centre? C'est la question à se poser. Donc première chose, vérifions nos sources. La deuxième, c'est de refuser les slogans qui sont séduisants. Alors, pour en faire un peu une caricature, Dieu veut que tu sois riche. Ça flatte tout simplement nos désirs. Mais ça nous détourne tout simplement de la croix. Jésus n'est pas mort pour faire de nous des millionnaires. mais pour faire de nous des enfants adoptés du Père et héritiers du royaume. Alléluia. Et aujourd'hui, les croyants vont, les slogans vont encore plus loin que sur la question de l'argent. Tu ne connaîtras plus jamais l'échec. Si tu as la foi, tu ne souffriras plus. Ces paroles, elles sont belles, oui, mais à entendre, mais elles ne sont pas vraies. Jésus dit, dans le monde, vous aurez des... Ah, vous connaissez tous le verset. Bon. Et aujourd'hui, je pense à ce que je vous disais tout à l'heure, le reportage d'Envoyé spécial, il y a de cela quelques jours, un peu plus d'une semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on s'est posé la question, Nicolas et moi, parce qu'on s'est posé la question, fallait-il faire un débat? Mais j'ai dit, mais il faudrait que personne l'ait vu pour qu'on puisse faire le débat. Donc vous nous direz, vous verrez Nicolas tout à l'heure et moi-même, et on verra ce qu'on peut faire. Mais une des choses, c'est sûr que c'est dérangeant, et il y a eu toutes sortes de réactions autour de ce reportage. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez le voir, c'est sur France 2, le site de France 2. Je ne sais pas s'il sera diffusé en Martinique ou pas sur les ondes hertziennes. Mais tout ça pour vous dire que ce reportage, beaucoup d'amalgames, beaucoup de contresens, et puis des liens là où il n'y avait pas de lien à faire. Donc en gros, ils avaient un message à donner et ils ont fait le reportage. Et il se trouve que, pas plus tard qu'il y a quelques temps, j'ai observé que les évangéliques d'Espagne font la même critique pour leur télé locale qui a fait la même chose. Pour vous dire que ça fait partie des tribulations, et encore là, c'est très gentil, on va dire ça comme ça. ça fait partie de notre vie chrétienne. Et Dieu seul sait s'il y a des chrétiens qui ont réagi, ah, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on attend du monde? Qu'il nous traite en toute vérité, qu'il nous traite correctement? Ils en sont incapables. Ils en sont incapables parce qu'ils refusent de voir la vérité. OK? Et ils mettent tous les évangéliques dans un même sens. Or, si il y a bien une branche du christianisme qui est diverse, même si on a une unité, mais dans l'expression, dans la façon de vivre sa foi, c'est bien les évangéliques. D'une église évangélique à une autre, vous avez des expressions de foi totalement différentes. Vous avez des principes différents, n'est-ce pas, dans la façon de faire, même si la foi est la même. Mais eux, ils ont voulu mettre tout ça dans le même sac. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je vais revenir à ma prédication, mais vous nous direz, et on verra si on va faire le débat, je ne sais pas où est Ah, il est là, voilà. Alors, le titre, c'était « Les évangéliques, pas si angéliques », un truc de ce genre. Hein? Pas si angéliques, voilà. Bon, Bon, on n'a pas dit qu'on était des anges non plus, mais enfin. Bon. Mais tout ça pour dire que l'épreuve fait partie de la vie chrétienne et que quand on oublie ça, on tombe dans une déconvenue. La vraie bénédiction n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Christ au milieu de la souffrance. La vraie bénédiction n'est pas la réussite, mais elle est dans la félicité. La vraie bénédiction n'est pas dans la réussite, mais elle est dans la fidélité. Bien sûr que le Seigneur veut qu'on réussisse, mais ce n'est pas dans la réussite que nous avons la vraie bénédiction, mais dans notre fidélité que le Seigneur nous permet d'avoir par sa grâce. La vraie bénédiction n'est pas dans le confort. Ah, les chrétiens d'Occident. Ah, ils peuvent dire un tas de choses, hein? Ils peuvent prêcher un tas de choses avec assurance, les chrétiens d'Occident. Comprenez par l'Occident, États-Unis, Europe, et nous-mêmes, nous sommes dedans. Mais qu'en disent les chrétiens persécutés? Je pense qu'ils n'auraient pas la même manière de prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Avec beaucoup plus d'humilité et de simplicité. Et d'authenticité aussi. La vraie bénédiction n'est pas dans le confort, mais elle est dans notre communion avec Dieu. Et frères et sœurs, la croix reste au cœur de l'évangile. Sans la croix, sans ce passage par cette douleur extrême dont notre frère Nicolas a partagé tout à l'heure, sans ce passage-là, il n'y a pas de résurrection. Et sans renoncement, il n'y a pas de vraie vie en Christ. Donc, s'il faut vérifier ses sources, il faut aussi refuser les slogans séduisants. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la théologie. Beaucoup décrit la théologie. Beaucoup la mettent, mais la théologie permet, en tout cas quand elle est bien faite et quand elle est centrée sur Dieu et qu'elle est christocentrique, parce qu'il y a aussi toutes sortes de théologies, on est d'accord, mais elle permet d'apprendre à pouvoir dire les choses dans le monde présent, mais à pouvoir revenir à la parole de Dieu et à pouvoir développer et à pouvoir affronter aussi toutes les pensées de ce monde. En tout cas pour les chrétiens, parce que celui qui ne veut pas croire, il ne voit jamais. Hein. On peut lui faire des exposés de théologie, il ne va rien comprendre. Ok ? Mais celui qui veut croire pour qu'il sache développer sa foi dans toutes les circonstances, que tu sois ouvrier ou que tu sois, professeur d'université. Ok ? Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Alléluia. Frères et sœurs, la croix reste, donc je vous l'ai dit, au cœur de l'évangile. Il y a autre chose. Donc je vous ai dit la nécessité pour nous de refuser les slogans, mais aussi de redécouvrir la joie simple de la grâce. Et quand je vous disais tout à l'heure que parfois en tant que chrétien, nous oublions les clés, la clé la plus importante de la grâce, c'est que moi-même je l'expérimente dans les accompagnements pastoraux, dans les entretiens pastoraux, où cette notion de grâce abondante de Dieu toujours disponible pour le cœur repentant, même pour le chrétien de longue date, n'est pas si logique que ça. Hein. Pourquoi ? Parce que nous sommes comme les Galates et qu'on aime revenir à la loi. Est-ce que je veux faire ? Est-ce que je ne dois pas faire ? Et quand je fais et quand je ne fais pas, alors je suis bien devant Dieu. Dieu te dit, tu n'es pas bon. Comment tu ne comprends pas ? Quel que soit ce que tu fais, tu n'es pas bon. Par contre, est-ce que tu acceptes ma grâce ? Est-ce que tu acceptes de vivre avec ma grâce ? Est-ce que tu acceptes de dépendre de ma grâce ? Et c'est moi qui vais te transformer. Alléluia ! Pas toi avec tous tes efforts. Même si, je veux dire, quand on reçoit la grâce, forcément, on va faire des efforts. Mais si ces efforts sont concentrés sur tes capacités humaines, où pas qu'à arriver ? Tu fais la religion. Donc, il y a nécessité pour nous de redécouvrir la joie simple de la grâce. Et la grâce est gratuite seulement pour celui qui, elle est gratuite pour nous, mais elle a été d'un coût extraordinairement coûteux pour celui qui nous a accordé la grâce. La croix est le lieu où la grâce a été payée à un coût inestimable. Et on n'a rien y rajouter. Et c'est précisément cette gratuité qui doit bouleverser nos vies. Et quand je disais revenir à une joie simple, c'est revenir non pas à tout ce que je pourrais faire, à tout ce que je pourrais développer, à tout ce que je, ou au niveau que je pourrais atteindre, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas réveiller des morts, ou tout ça. Oui, non. C'est la grâce qui fait que Jésus m'accepte parce que j'étais prévu pour le trou et pour l'enfer. Et cette grâce vient me rassurer dans toutes mes angoisses, dans toutes mes réalités au quotidien. Cette grâce, elle est toujours présente. Alléluia. Elle me libère de la culpabilité, de la peur. Et elle me donne à goûter une joie immense. Et si en tant que chrétien, quel que soit le nombre d'années de conversion, tu n'es pas capable de fermer tes yeux et de juste goûter à la grâce de Dieu, je crois que tu es passé à côté de l'Évangile. Si tu n'es pas capable d'ouvrir un passage de la Bible et de voir comment cela fait référence à Christ d'une manière ou d'une autre, comment tu vois la grâce de Dieu d'une manière ou d'une autre, tu es passé à côté d'une richesse inestimable. Tu vas chercher toutes sortes de paroles qui peut-être viennent de la Bible, mais dans lesquelles tu ne vas pas trouver la vie parce que tu ne t'es pas un moment posé simplement dans sa présence juste pour dire « Merci Seigneur parce que tu m'acceptes ». Un coût inestimable qui a été payé pour nous. Alléluia. Jésus nous dit, tout est accompli, n'est-ce pas? Dans ce texte de Galates, je vous l'ai dit, Paul, il est en colère. Et il écrit. Ils ont commencé par le salut, la joie du salut gratuit, et puis ils en reviennent à la loi. Tout simplement parce qu'il y a des chrétiens judaïsants qui ont dit « Ah non, mais ce que Paul est en train de prêcher, c'est trop facile. C'est trop facile. Alors les païens qui sont là, ils vont devenir chrétiens et puis ils vont pas faire toutes les choses de la loi. Non, c'est pas normal. » Pour eux, croire ne suffit plus. Il ne suffit plus, il faut faire. Et c'est pour ça que je vous disais dans la lecture tout à l'heure, dans Galates chapitre 1, que Paul, il est en colère, mais il commence bien, verset 3, que la grâce, si tant est, vous comprenez ce qu'est la grâce, et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de les recentrer. La grâce et la paix. La grâce, c'est un cadeau qui vous est donné. Est-ce que vous le prenez pleinement ou est-ce que vous rajoutez quelque chose? Et la paix, c'est en allant dans ce chemin, en ajoutant des choses à l'évangile, zot kay peut être zot pas arriver. La grâce et la paix. Il n'y a aucun autre fondant, aucune autre source. Et frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, et je vais terminer avec deux petites choses que je veux vous dire, c'est le piège de faire avant d'être. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le piège de faire avant d'être. C'est ce piège qui, pour ceux qui vivent sans jamais se reposer sur Dieu, pour ceux qui confondent le zèle et la communion. Et je veux dire par là que bien souvent nous vivons dans ce monde engagés, passionnés, toujours en mouvement, dans nos affaires et peut-être même pour Dieu, mais à l'intérieur on est épuisé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On fait pour la famille, on fait pour notre entreprise, on fait même pour Jésus à l'église, mais on vit de telle manière que ça dépasse le niveau de notre intimité avec Jésus. Notre intimité avec Jésus ne supporte pas tout ce que nous faisons. Et un jour, le risque, c'est que ça s'effondre. Le risque, c'est qu'il y ait un vide et qu'on se retrouve seul. Et comme les Galates, nous risquons de remplacer la foi par la performance. Nous croyons que si nous faisons assez, nous prions assez, nous servons assez, Dieu sera satisfait. Mais Paul est en train de crier dans Galates 2, verset 16, « Ce n'est pas par les œuvres de la loi, c'est par la foi en Christ. » La foi, l'évangile de grâce n'a pas besoin d'être amélioré. Et Jésus l'a dit sur la croix, « Tout est accompli. » Et aujourd'hui, on est dans un monde de performance. On passe à côté. Parce qu'on met l'accent sur ce que nous pouvons faire de l'extérieur. Or, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Plusieurs fois, j'ai entendu des nouveaux convertis me dire, ah, moi, je ne veux pas prier en public parce que je ne sais pas le faire. Et puis, il y a tellement de personnes qui prient bien. On est tellement attentif à ce que nous faisons. Mais pour Dieu, j'aimerais te le dire, ça c'est rien. Ce que nous faisons n'a aucune valeur si nos vies ne découlent pas de sa présence. Et quand notre vie découle de sa présence, nos œuvres, nos actions deviennent des fruits et non des fardeaux lourds à porter parce que faut que m'en faille, alors m'en qu'à faille et puis m'en là m'en qu'à souffrir en bail. Il faut s'arrêter, vous savez. Dernièrement, Dieu m'a donné une claque. Je me rappelle de tous mes efforts ici faits à l'église de Dumaine, et surtout Laurine s'en rappelle. Vous n'avez pas encore d'enfant. Et où il y avait peu de fruits, on va dire ça comme ça. Il y avait des fruits, grâce à Dieu, mais peu de fruits. Et Dieu m'a donné une claque comme cela, mais c'est là, au moment où tu es peut-être le moins disponible, parce que tu dois t'occuper de ta famille aussi. C'est au moment où moi je veux bénir. C'est au moment où moi je veux faire, où je veux accomplir et je veux changer des choses. Ne laissons pas, chers amis, nos bonnes œuvres remplacer une bonne relation avec notre Maître. L'Évangile n'a pas besoin d'ajout de nos performances. Pas plus, pas moins, pas autre chose, Jésus seul. Ça, c'est le premier danger. Cette recherche de performance, cette recherche à vouloir en quelque part rajouter tout ce que l'on pourrait faire à l'évangile. Mais il y a un deuxième danger, c'est celui d'aimer Dieu sans aimer les autres. Est-ce que vous connaissez Martin Buber? C'est un autre Martin, mais 400 ans après. Martin Buber. Martin Buber était un théologien chrétien d'origine juive, allemand aussi d'ailleurs, du début du XXe siècle. C'était un passionné de Dieu. Martin Buber se voyait comme un homme très spirituel et il cherchait surtout des expériences fortes avec Dieu, celles qui semblaient l'élever au-dessus du quotidien. Et il pensait plus à l'éternité qu'à la vie de tous les jours. Et il s'intéressait davantage au ciel qu'aux gens autour de lui. Et il aimait les moments d'extase, de mystique avec Dieu, plutôt que les rencontres avec ses congénères, les autres humains. Et en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, il y a un jeune homme qui vient le voir. Ce jeune homme est vraiment dans une angoisse profonde, ce jeune homme est vraiment dans une détresse. Et Buber l'accueille poliment. Il peut pas faire autrement, mais en réalité il est pressé parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à sa méditation, de retourner à ses expériences mystiques. Donc il a envie de faire autre chose, mais il reste courtois vis-à-vis de ce jeune homme. En gros, accouche, et puis moi, je dois être en connexion avec Dieu. Mais peu après, chers frères et sœurs, en 1914, il apprend que ce jeune homme s'est suicidé. Et dites-vous bien que ce jour-là, Buber comprend qu'il a cherché la présence de Dieu sans être présent à son prochain. Et ça va tourner en lui un développement théologique, mais que je ne vais pas vous développer là aujourd'hui, mais dans leur relation aux autres. Frères et sœurs, c'est un avertissement pour chacun de nous. On peut aimer prier, on peut aimer chanter, on peut aimer étudier la Bible et pourtant passer à côté des gens que Dieu nous envoie. On peut se dire spirituel en négligeant d'aimer. On peut prier pour réussir, mais on oublie ceux qui souffrent à côté de nous. On peut chercher la bénédiction pour soi et on oublie de bénir les autres. On peut prier seulement pour aller mieux et pour se développer et on oublie d'aller vers ceux qui vont mal. On peut penser que la foi sert à éviter les problèmes et on oublie que Jésus lui-même est allé jusqu'à la croix. On peut penser être fort dans la foi, mais pauvre en amour. J'aimerais te dire que l'évangile authentique, c'est un évangile qui est incarné. C'est un amour qui est incarné. C'est notre cœur qui écoute. C'est notre cœur qui sait s'arrêter quand il y a un besoin spirituel à côté de nous. C'est notre cœur qui sait tendre la main. L'amour véritable à laquelle Dieu nous appelle, c'est un amour de gestes simples. Une oreille qui écoute, une main qui relève quelqu'un, un cœur qui comprend. J'aimerais le dire de cette façon-là. L'Église, du moins le monde qui nous entoure n'a pas besoin d'une Église brillante. Elle a besoin d'une Église aimante. Je le répète. Le monde n'a pas besoin d'une Église brillante, mais d'une Église aimante. Et notre slogan ici, c'est « Bâtissons dans l'amour ». Oh, combien nous avons du travail. Oh, combien nous avons du travail. L'Évangile, je le répète, n'a pas besoin d'ajout de nos performances, pas plus, pas moins, pas autre chose, mais Jésus seul. Alors, j'aimerais prendre un temps avec toi et je demanderai à notre équipe de louanges de revenir. Nous allons chanter ce chant « Dieu est là ». Afin que nous puissions revenir à la simplicité du vrai évangile. En quelque part, Dieu est en train de nous appeler ici à déposer tous les poids inutiles dont nous nous sommes chargés d'une manière ou d'une autre. Dieu est là. Peut-être la peur de ne pas faire assez. Et vous voyez, quand je vous ai parlé des méditations, et on va continuer à vous encourager à lire la parole de Dieu, je sais que chacun a pu faire comme il peut. Et certainement, le Seigneur nous encourage à aller plus loin, à être plus sérieux dans l'étude de la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a toujours ce regard de grâce à notre égard et qu'il veut nous accompagner. Peut-être que tu n'as pas lu grand-chose d'Exode, mais le Seigneur veut te permettre d'aller jusqu'au bout de Galates. Parfois, on a la peur de ne pas faire assez. Et donc, on est là, on est avec ce poids. Est-ce qu'on goûte à l'évangile de grâce ? Parfois aussi, on est chargé parce que il y a la fatigue spirituelle qui est là parce qu'on veut toujours prouver notre valeur. Et lorsqu'on a l'impression que quelqu'un nous critique d'une manière ou d'une autre, on veut prouver notre valeur. Parfois aussi, c'est la culpabilité qui nous suit comme une ombre, quel que soit le lieu où on va. Peut-être à cause d'une éducation qui était culpabilisante, je ne sais pas. Et quand on arrive devant le Père céleste, on a du mal à tout lâcher et à comprendre qu'on n'est pas à la hauteur, mais qu'il nous aime d'un amour débordant. Alléluia. Peut-être c'est le perfectionnisme qui t'épuise. On dit que les femmes, certaines femmes sont... Mais il y a des hommes aussi qui sont perfectionnistes. Mais ça, alors certes, il y a peut-être un bon côté, faire bien les choses, aller jusqu'au bout. Oui, bien sûr, mais parfois c'est comme un poids qui est là. Et on est perfectionniste tellement qu'on devient insensible aux autres qui ne sont pas perfectionnistes comme nous. Parfois c'est la comparaison, parce que si on compare à l'autre, ah oui, ils sont plus allés, ils sont plus en avant. Et cela nous vole notre joie. Parfois, c'est le besoin de contrôle aussi qui étouffe notre paix. On sent qu'il y a une situation qui nous échappe. On a beau prier, on a beau chercher Dieu, il y a quelque chose qui est en train de nous échapper et on a besoin de contrôler. Et tout ça nous essouffle la paix. Mais Dieu dit, moi, je contrôle. Le texte qui a été pris dans Exode chapitre 14 nous le rappelle très clairement et on l'a évoqué encore jeudi soir. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Devant, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a, les Égyptiens. Mais Dieu dit, restez en silence. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches à contrôler quelque chose que tu ne contrôles pas? Parfois, c'est la colère ou une blessure qui n'est pas pardonnée. C'est aussi un désir de contrôle. Et tu gardes ça au fond de ton cœur. D'autres fois aussi, tu recherches l'approbation des autres. Tout cela, c'est tout ce qu'on rajoute à l'évangile. Tout ce qu'on rajoute à l'évangile et tout ça nous alourdit. Et comme cela nous a alourdi, mais bon, on n'a pas réglé le problème, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on va alourdir les autres avec des messages qui ne sont pas bibliques, qui ne parlent pas de l'évangile. Et donc il n'y a pas de véritable libération non plus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne cherche plus dans la performance, ne cherche plus dans tout ce que tu pourrais faire. Viens, je t'accueille dans la maison de ma grâce. Et nous allons chanter ce chant. Et si quelques-uns veulent et ont été appelés et veulent vivre simplement de la grâce de Dieu, tu pourras te lever pendant ce chant. Tu pourras simplement, Seigneur Jésus, je veux recommencer avec toi. Je veux vivre de ta grâce. Je veux arrêter de rajouter des choses. Et je sais que j'arriverai, et je sais que je grandirai, et je sais que je progresserai si simplement je vis de ta grâce au quotidien.